Ça m'obligera à faire plus court que prévu. Je me posais la question sur une des parties de mon texte et je fais fuir tout le monde. C'est gentil, il en reste encore quelques-uns. Ouais. J'ai dit à Daniel que moi j'avais pas le choix, j'étais obligé de rester aussi. Hein. Il y a une partie de mon texte, je savais pas trop si je devais le faire ou pas, et vu le temps qui reste, je pense que j'ai ma réponse. Donc je vais regrouper. Alors dans mes lectures quotidiennes, j'ai été interpellé par un passage. C'était surtout de la curiosité en fait au départ, parce que ce passage il est bizarre en fait dans la Bible. Et finalement après, je l'ai étudié un peu plus en profondeur, et depuis des semaines, je voulais prêcher sur ça. Donc je vais vous l'expliquer après. Hein. Vous allez voir qu'on va parler très très rapidement de l'ange de l'Éternel dans la Bible, mais très vite. Le but c'est pas de parler de ça en fait. Hein. Je vous dis dès le début, comme ça limite vous écoutez pas et on fait la partie après. Hein. Mais après on verra que on peut connaître Dieu d'une manière très très proche en fait, et que c'est ça le but de Dieu pour nous. Il n'y a pas d'autre but que ça. Il n'y a pas un but de nous faire ci ou faire là. Le but, c'est de nous connaître et que lui nous connaisse. Et on terminera avec l'idée qu'il y a deux promesses dans le passage qu'on voit et que bah, c'est à nous à faire le bon choix, en fait. Et que ce choix, bah, il dépend de ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire de à quel point on connaît Dieu. Donc, le passage qui m'a intéressé, c'était Genèse, chapitre 18-19. Alors, ces deux chapitres, on ne lira pas tout. Mais on lira quand même 18 parce que c'est lui qui m'a accroché au départ et vous lirez 19 chez vous. Ça sera vos devoirs à la maison. Voilà. Alors le contexte de ça, c'est quoi? Donc c'est si on reprend un peu avant en Genèse chapitre 16, on voit Sarai qui s'appelait encore comme ça à cette époque, hein, qui s'impatiente, qui voit pas l'accomplissement de la promesse de Dieu et en même temps. Enfin, on peut pas trop la blâmer dans un sens. Ça fait 10 ans qu'elle attend et qu'il n'y a rien de concret et que si mais Dieu il a promis un fils, alors bah elle se dit la fin justifie les moyens et elle dit à Abraham bah fais un enfant avec ma servante et puis ce sera ta postérité, c'est ton enfant, ce sera le mien, je l'adopte. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se fait que ça sera quand même ton enfant. Voilà. Donc on voit déjà en fait dès le départ l'attitude de Sarah qui croit plus à la promesse, en fait. Et à ce moment-là, Abraham, il en est plus ou moins au même point. On sent qu'il a, voilà, il a lâché le coup et puis il suit l'idée de Sarah, en fait. Dans la deuxième partie du chapitre 16, il y a un contraste parce qu'on parle de Hagar, donc qui est la fameuse servante. Et donc qui se fait maltraiter par Sarah, qui du coup est un peu jalouse, hein. Et elle se fait tellement maltraiter qu'elle se sauve dans le désert. Et là, il y a l'ange de l'Éternel qui intervient et qui dit « Mais humilie-toi sous la main de ta maîtresse, retourne là-bas et ton enfant, il en sortira une grande postérité aussi. » Donc elle obéit à ce qu'on lui dit. Elle croit à la promesse et du coup, elle retourne. Elle fait quelque chose qui est finalement pas très logique, hein, de notre point de vue à nous. Elle retourne s'humilier sous sa maîtresse, prendre encore des brimades, peut-être des coups, on sait pas. Parce que Dieu lui a dit, tu fais ça, et t'auras une grande postérité. Donc, elle le fait, comme Dieu lui a demandé. Le chapitre 17 de Genèse, on va arriver au 18, hein, vous inquiétez pas, avant la fin. Chapitre 17, Dieu rappelle à Abraham sa promesse, encore une fois. Il l'a fait vraiment à plusieurs reprises hein, quand on lit les chapitres. Et en fait, l'enfant qui devait naître, c'était juste un élément de la promesse. Il n'y avait pas que ça. D'accord ? Il donne aussi, il dit que tu seras le père d'une multitude de nations. Il dit des rois sortiront de toi. Je serai ton Dieu, celui de ta descendance. Les nations seront bénies en toi et je te donne le pays de Canaan. Donc, il y a une promesse qui est conséquente. Et en signe de cette promesse, il dit à Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et on va dire peut-être à l'intention de Sarah, Dieu dit aussi à Sarah, il lui dit, tu auras une postérité. Il lui dit à elle. C'est un peu un signe que voilà, t'as voulu dévier un peu le sujet et dire qu'Abraham aurait une postérité, mais c'est par toi qu'il l'aura. Et Abraham, on a l'impression que là, il reprend un peu de foi en Dieu. Alors, il est pas forcément perdu, mais il y a quand même un moment de doute par rapport à la promesse qu'il avait reçue. Et il se fait circoncire, lui et toute sa famille. C'était le signe que Dieu lui avait donné. Donc ça, c'est le signe, bon, bah, j'obéis, Seigneur, je fais mon pas d'obéissance et je crois à ta promesse. Voilà. On en arrive là à notre chapitre 18. Donc celui-là, on va le lire. Donc Genèse, et au chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Alors, je coupe déjà, hein, mais regardez un peu comment, qui lui apparaît en fait, et qui lui parle, et comment c'est écrit dans ce chapitre-là. Donc là, on lui dit, l'Éternel lui apparut, verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » « L'Éternel, dit Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes, vous voyez l'Éternel, ces hommes, se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement sur le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Alors, je vais passer juste ce verset-là pour gagner un petit peu de temps, mais vous souvenez de la discussion entre Abraham, hein, mais s'il y a 50 justes, s'il y en a 45, s'il y en a 10, est-ce que tu vas faire périr ? Et à la fin, on voit Abraham, donc au verset 32, Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est un peu cette idée. Alors, l'Éternel lui apparaît, c'est des hommes qui sont en face de nuit, c'est l'Éternel qui lui dit quelque chose. Après, il y a des hommes. Après, on voit, alors, au chapitre 19, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Finalement, il y a des anges. Alors, on me dit, c'est quand même curieux, cette affaire. Et en fait, il y a une explication, vous la connaissez comme moi, je pense, hein, c'est qu'il y avait vraiment des anges devant lui, qu'il y avait vraiment Dieu devant lui. D'accord ? Le premier verset, en fait, on pourrait presque dire que c'est une introduction de la part de celui qui écrit le texte. Il dit, voilà, à un moment, l'Éternel est apparu à Abraham et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc celui qui écrit le texte, il sait qui était devant Abraham, il a du recul pour savoir. Mais Abraham, lui, il ne le sait pas. Et on voit au tout début, il traite les gens comme des hommes. Il voit des hommes s'approcher, trois formes humaines en tout cas. Il leur donne à manger, tout ça. Et quand est-ce qu'il comprend que c'est Dieu devant lui ? Quand les hommes ils lui disent la promesse que Dieu lui a faite. Cette promesse, bon, il y en a peut-être parlé autour de lui, mais trois étrangers qui se pointent, qui disent « Sarah aura un fils bon, ». Voilà, ça pouvait venir que de Dieu, en fait. Et là, du coup, dans le texte, on voit au verset 13, « L'Éternel dit à Abraham ». Je pense qu'à ce moment-là, quand il y a eu la promesse, Abraham, il a capté, il s'est dit oh, « C'est Dieu que j'ai en face de moi, c'est pas possible autrement ». Et je me suis dit, mais Dieu qui arrive sous une forme humaine. C'est intéressant quand même dans l'Ancien Testament. Et ça m'a fait penser à l'ange de l'Éternel. Alors, l'ange de l'Éternel, il est bizarre aussi. Il y a beaucoup de trucs bizarres dans la Bible, hein, mais on se dit l'ange, mais de l'Éternel. Alors, il y a un truc particulier avec lui. Et en fait, l'ange de l'Éternel, il est différent des autres anges. C'est-à-dire qu'il peut. Il vient, il apporte des messages, mais lui, contrairement aux autres, il accepte d'être adoré. Lui, contrairement aux autres, il peut pardonner les péchés. Et il y a un ensemble de choses dans ce qu'il dit. Alors, on va pas le voir là en. Enfin, on pourrait faire une prédique que sur ça, mais c'est pas le but. Mais il y a un ensemble de choses qu'il dit, qui montrent qu'il parle comme étant l'Éternel, en fait. Il est considéré comme Dieu, l'ange de l'Éternel. Et s'il est considéré comme Dieu, alors qui il est, finalement? Il est Dieu, mais Dieu qui? Et ni Dieu le Père. Bah, il n'est pas décrit dans la Bible comme venant sous une forme humaine. On a aussi dans la Bible des versets qui disent que personne ne peut voir Dieu et sinon il meurt. Donc on se dit Dieu le Père qui descend sous une forme humaine, ça paraît bizarre. Vous voyez tout de suite où je vais en venir, hein, normalement, si je le dis comme ça. Le Saint-Esprit, il n'est pas sous une forme humaine, il est décrit comme un vent, comme une flamme, comme il vient habiter dans le cœur des gens, mais il prend pas une forme humaine pour voir les gens. Et donc du coup, il reste une troisième personne, hein, dans Dieu. Il reste Jésus, finalement. Et quand on regarde très rapidement, hein, l'ange de l'Éternel qui apparaît à plein de moments, Jésus naît et pfiou, fini. Plus jamais on entend parler de l'ange de l'Éternel. Il n'y a plus besoin, en fait. Il est venu sous sa forme, alors peut-être définitive, je sais pas, faut pas le dire comme ça, mais voilà. Et clairement, je pense que l'ange de l'Éternel, et probablement celui qui était devant Abraham, là, c'était Jésus. Et alors, c'est pas juste une question théologique, hein, ça en est une, mais limite, ça, on s'en fiche. C'est que je pense que c'est important parce que les gens autour de nous, ils se disent que Dieu, dans l'Ancien Testament, il est méchant, quoi. Il est dur, il permet des guerres, il tue des gens, enfin voilà. Et en fait, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau. Et la preuve, c'est qu'il envoyait déjà Jésus sur terre faire des actions, dire des choses aux hommes, les bénir, leur pardonner. Et il était déjà sur terre au milieu des hommes. Et je pense que dans les religions, il n'y a pas un Dieu qui envoie comme ça, qui vient sous une forme humaine, donc dégradante quand même pour lui. Il vient au milieu de ses créatures, il leur fait du bien, il leur parle, il est avec eux. Et comme là, on voit avec Abraham. Il s'installe avec Abraham et ils discutent en face à face. Et je pense que ça, c'est. Voilà, il n'y a pas ailleurs. Et c'est une marque distinctive de notre Dieu, en fait. Alors, il pardonne les péchés. Juste quelques éléments, hein, pour appuyer un peu sur l'ange de l'Éternel, mais on va pas s'éterniser dessus. Vous souvenez que les pharisiens, dans le Nouveau Testament, Jésus, il dit, bah, va, tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, mais. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et pourtant, l'ange de l'Éternel, il pardonne les péchés. Si on prend ses propos, il pardonne. Donc c'est Dieu, hein, il n'y a pas à chercher. Dans Malachie 3, verset 1, on lit: Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc ce passage-là, il parle très clairement de Christ qui vient et il l'appelle le messager. Et étrangement, messager, c'est la signification du mot ange. Donc il y a aussi un petit coucou comme ça du Seigneur, un petit clin d'œil de. Voilà, Jésus, il venait sous une forme humaine. Alors l'ange de l'Éternel, des fois on le voit. C'est Alex qui parlait du film, je crois, la semaine dernière, hein, de les 10 plaies d'Égypte, Moïse, et on voit une nuée qui se propage et qui frappe, où les gens, dès qu'ils sont dans la nuée, ils meurent. Mais voilà, il a pris aussi une forme humaine à plein de moments. Et je termine juste avec cette idée-là. Dans Exode 14, verset 19, ça dit: L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Un peu plus loin, Exode 23, on dit: Voici, j'envoie un ange devant toi. Donc il y avait l'ange de Dieu clairement autour du peuple quand il était dans le désert. Ça a pris un moment une forme de colonne de nuée, de feu, mais la Bible nous dit à plusieurs endroits c'est l'ange de Dieu qui était avec eux. Et dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 10, on lit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je pense que c'est suffisamment clair, hein. Il n'y a pas besoin de fouiller partout. Quand on voit des versets comme ça, on se dit, mais voilà, Jésus était avec son peuple dans le désert. Donc je m'arrête là sur l'ange de l'Éternel, ce n'était pas le but principal, mais c'est vraiment l'idée de Dieu, il veut être au milieu de ses créatures, il veut discuter avec, il veut, voilà, il veut faire du bien en fait. Et dans cette histoire, en fait, c'est ce qui arrive avec Abraham, il est avec Dieu, face à face, et il discute. Et on voit, chose intéressante, qu'il y a deux anges avec Dieu qui viennent, qui l'accompagnent, on ne sait même pas ce qu'ils disent en fait, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Il y a plein de gens, ils cherchent les anges et il faudrait qu'il y ait un ange qui me montre des choses parce qu'il y a plein de gens, ils ont vu des anges, c'est super. On s'en fiche. On s'en fiche. On a celui qui envoie les anges et qui nous parle directement. Et on n'a pas besoin d'avoir les anges pour nous parler. On a Dieu qui nous parle directement dans sa parole, qui nous parle directement dans notre cœur. Et là, Abraham, ben, il a dû forcément parler un peu avec ses hommes anges. Mais ce qui est important, c'est que Dieu lui a parlé. Et il faut qu'on se focalise sur Dieu lui-même, en fait, pas sur les anges, pas sur des messagers, pas sur, comme disait Alex un mardi aussi, sur des tas de gens qui parlent partout, sur Internet, à la radio ou autre. Enfin, y a des trucs bien à la radio, hein, je reprends pour Étienne, mais clairement, on est centré sur Christ, quoi. Et alors, c'est bien si ce qu'on entend, ça parle de Christ, mais il ne faut pas aller chercher à tous les endroits, il faut vraiment écouter Dieu, s'arrêter et l'écouter. Et je pense que l'une des grandes idées ici avec Abraham, c'était que c'est pas Dieu qui lui demandait de faire ci, de faire ça, il était juste proche de Dieu. Il profitait de sa présence, il était directement avec lui à discuter, et du coup Dieu lui a dit, je vais te parler de mes projets. Et quand Dieu lui a parlé de ses projets, Abraham, il a eu finalement le même cœur que Dieu, qui était de sauver Lot et de sauver sa famille. Il a eu à cœur les autres. Et je crois que si on se met devant le Seigneur, il ne dira pas, tu vas pas, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Il va nous montrer ses plans, et on va adhérer naturellement à ses plans. Et ses plans, c'est le salut des autres. Je pense que c'était ça l'idée dans ce passage-là. Et en fait, je pense clairement, avant, je lisais ce passage et je me disais, mais en fait, c'est bizarre. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Et je le voyais comme étant spirituel, en fait. Dieu, il discute avec ses anges, enfin voilà. Mais en fait, c'est physiquement, je pense, que ça s'est passé. Les trois sont partis et Jésus, qui est au milieu d'eux, il se tourne vers les autres, il dit, je vais pas lui cacher quand même, je vais lui expliquer ce qu'on va faire. Et du coup, il explique à Abraham, je t'ai choisi, je te fais ça et je vais faire ça. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Qu'est-ce qu'il a besoin de descendre, Dieu, dans les villes? Il le sait, en fait. Il sait très bien ce qui se passe. Et on a un peu le sentiment comme avec Job, en fait. Et il y a Satan qui parle avec Dieu et qui dit, hey, t'as vu Sodome? Je les ai bien eus, hein, eux. Ils sont à fond dans le péché. On peut difficilement faire mieux. Et Dieu qui dit, mais je vais descendre, je vais vérifier par moi-même. J'écoute pas ce que tu me racontes, j'écoute pas tes accusations parce que t'es le père du mensonge. Je peux pas t'écouter, je vais aller voir. Dieu, il sait très bien ce qui se passe. Mais dans un sens, il adopte un peu notre mode de fonctionnement à nous. Et nous, on pourrait dire, mais attends, Dieu, il juge. Enfin, qu'est-ce qu'il en sait de ce qui se passe exactement? Et des fois, dans notre vie, enfin, autour de nous, les gens, ils nous disent, mais Dieu, il fait ceci, il fait cela. Dieu, il sait pas ce que j'ai subi, moi, hein, les difficultés. C'est pour ça que je suis comme ça. Mais Dieu, il sait parfaitement ce qu'on est. Mais il a pris une forme humaine, il est descendu pour voir concrètement ce que c'était qu'un homme et ce que c'était une vie humaine. Et il joue nos règles, en fait. Il fonctionne comme nous. Enfin, en tout cas, il fait l'effort de fonctionner comme nous parce qu'il n'est pas comme nous. Et il vient et il va à Sodome vérifier concrètement. Et là, les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils n'ont plus d'excuses. Ils ne peuvent pas dire Dieu, il ne sait pas, Dieu ceci. Concrètement, vous savez ce qui va se passer. Hein, les deux anges vont arriver et les gens de Sodome vont vouloir coucher avec eux. Et finalement, c'est là où tout le péché il ressort. Et là, Dieu il constate concrètement le péché. Et après, il peut appliquer son jugement. Mais il est venu constater concrètement, et c'est ce qu'il a fait quand il est venu sur terre, qu'il est mort pour nous, il a vu ce que c'était le péché, et il l'a condamné à la croix. Alors, je fais tout dans le désordre, ça va être compliqué de m'y retrouver. Au verset 23 aussi, on voit que c'est Abraham qui va au contact de Dieu, en fait. C'est pas Dieu qui lui dit, Abraham, t'aurais pas un truc à me dire? Il pourrait, hein, des fois, c'est ce qu'il nous dit, parce qu'on se renferme, on lui parle pas, et du coup, Dieu, il vient, il nous titille jusqu'à ce qu'on lâche un peu le morceau. Mais là, c'est Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham, il connaissait Dieu, il savait qu'il pouvait aller le voir. Il y a des gens dans le monde qui se disent que Dieu, c'est loin, quoi. Qu'est-ce qu'on a à s'adresser à lui? Mais Dieu, il n'est pas loin. Il veut une proximité avec nous, comme il avait avec Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est que au verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Dieu, il n'y en a pas eu marre au bout d'un moment de dire, bon, écoute, Abraham, ça suffit, j'ai bien compris ce que tu voulais me dire, je vais sauver Lot, voilà, maintenant on abrège parce que j'ai plein de choses à faire. Il n'est pas comme ça. Et il attend patiemment qu'Abraham lui explique les choses, lui demande les choses, il lui répond. Et notre vie avec le Seigneur, ça doit juste être ça en fait. Hein. On peut lui parler. Et malheureusement, Abraham, il a mis une limite. Il a mis une limite à 10. C'est ballot, parce que s'il l'avait mis à 1, il aurait peut-être obtenu le salut des villes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai trouvé un petit... Alors, il faut faire gaffe à ne pas utiliser des versets n'importe comment non plus, hein, mais... Dans d'autres contextes, en Jérémie 5, verset 1, ça dit « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous et cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. » Si ça se trouve, il aurait pu aller jusqu'à un. On ne le saura pas, c'est trop tard. Mais finalement, le point limitant, ce n'était pas Dieu là-dedans. C'était Abraham qui s'est dit à 10, en dessous... J'ai peut-être commencé à l'agacer, Dieu, quand même. C'est un peu abusé. Et parce qu'il a mis cette limite-là à la grâce, il n'a pas obtenu plus. Alors, Dieu, il est bon, parce que finalement, il n'y a pas eu d'injuste. Mais Dieu, il a sauvé Lot et sa famille, et c'était ça le cœur d'Abraham. C'était probablement ça le cœur de Dieu aussi. Mais vous voyez qu'il s'est mis une limite, et c'est dommage, parce que je pense que quand on prie le Seigneur, c'est nous qui mettons les limites, c'est pas lui. Lui, il n'a pas de limite. Et nous, on se met des choses dans nos têtes et c'est dommage parce qu'on pourrait obtenir plus, clairement. On voit le juste, donc je disais tout à l'heure, hein, la proximité d'Abraham avec Dieu et cette discussion qu'ils ont. Et si on n'avait pas ça dans la Bible, on se poserait la question jusqu'à quel point on peut discuter avec Dieu. Mais quand on voit cette espèce de négociation entre Abraham et Dieu, c'est vraiment un signe qu'on peut aller, on peut s'ouvrir totalement devant Dieu, parler avec lui, lui demander des choses et oser en fait, simplement. Abraham, tout ce qu'il demandait, c'était ce qui était déjà dans le cœur de Dieu. Hein. Donc, il pouvait y aller. Et Sarah, à côté, sa réaction, elle est différente. À ce moment-là, en tout cas, moi, je suis vieille, comment je vais avoir des enfants? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand... Probablement qu'elle a pensé... Ça nous dit ça hein, dans la Bible. Elle a pensé dans sa tête, mais jamais j'aurai un fils. Enfin, à l'âge où j'ai, c'est fini, quoi. Et là, on a l'impression que les gens qui étaient ces trois hommes avec Abraham... Il y a un des hommes qui a dit « Pourquoi est-ce que Sarah, elle rit ?» Sarah, non, attends. Ah, comme ça, un peu, quoi. J'ai pas ri. Non, j'ai pas ri. Mais si, t'as ri, je le sais. Et c'est dommage parce que le Sarah qui dit « Mais non, j'ai pas ri », c'est qu'elle connaît pas Dieu, en fait. Parce que Dieu, il voit à l'intérieur des cœurs, elle devrait le savoir. Et Abraham, il le savait, lui. Et on voit un peu ce contraste entre Sarah qui, à ce moment-là, en tout cas, croit pas et qui connaît pas Dieu, ou en tout cas qui le connaît pas suffisamment, et Abraham, lui, qui le connaît bien, qui discute avec lui, qui obtient des choses. On verra après, rapidement, Lot, qui était encore un profil différent, qui devait connaître Dieu d'une certaine manière, mais qui a fait des choix, un choix désastreux, finalement un choix au départ en tout cas, et qui s'est mis dans une situation pas possible. Mais parce que je pense qu'il manquait quelque chose, une connaissance de Dieu, quelque part. Alors, tous ces chapitres-là, c'est pour ça que j'ai repris 16, 17, ici 18, et on va voir le 19 maintenant. Tout ça, ça parle de promesse, en fait. Ça parle de la promesse que Dieu a faite à Abraham, de salut à sa descendance, d'un tas de choses, mais en tout cas des promesses. Et je crois que le chapitre 19, des fois, on le met à part, la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais c'est aussi une promesse, en fait. C'est une promesse de destruction, c'est une promesse de jugement. Et elle est dans la Bible... Et je crois que s'il y a un contraste aussi fort entre les deux, c'est quelque part, Dieu nous dit, bah, t'as le choix. Soit tu cherches à me connaître plus profondément, comme Abraham, soit tu veux pas me connaître, tu vas faire un choix idiot et ça ira à la destruction au bout d'un moment. Et on a tous ce choix-là, en fait, hein, dans nos vies. Mais on a deux promesses. Et finalement, elles s'accompliront toutes les deux. il y a des gens qui obtiendront le salut et il y a des gens qui obtiendront la destruction à la fin. Parce que c'est promis, c'est écrit comme ça. Et ça fait partie de l'évangile. C'est pas une question de faire peur aux gens, c'est une question de leur montrer la réalité de l'évangile, la sainteté de Dieu, du péché qu'il ne peut pas supporter. Et c'est pour ça, donc tout à l'heure, cette histoire de mur qu'a dit Emmanuel, et Dieu, il ne peut pas supporter. Et donc à la fin, il y aura un jugement, ça c'est sûr. Donc les deux anges arrivent à Sodome, et vous savez ce qui se passe. Alors je reviens juste avant de parler de ce passage-là. Dans 2 Pierre 2, verset 6, ça dit « Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Le Seigneur, bon, la suite, mais Lot était juste, nous dit la Bible. Et malheureusement, à un moment donné, quand ils étaient trop nombreux, avec les troupeaux, tout ça, et Abraham dit, bon, écoute, Lot, il faut qu'on se sépare, ça commence à quereller entre nos bergers, il n'y a plus assez de ressources pour nous deux là, qu'est-ce que tu prends? Et Lot, il a vu la plaine, et il s'est dit, moi, je choisis ça. Et Abraham, en fait, il n'a pas choisi, il a fait confiance à Dieu, et juste après, Dieu vient le voir, et il dit, mais tout le pays, je te le donne après. Ta descendance, elle l'aura, et je te bénirai. Et il lui rappelle encore une fois sa promesse. Mais Lot, lui, il a fait ce choix-là. On ne sait pas à quel point il s'est tourné vers Dieu avant de faire le choix. On nous dit qu'il s'est tourné vers la plaine, qu'il a vu que c'était pas mal pour des troupeaux, pour l'élevage qu'il faisait, et qu'en fait, ça l'intéressait bien. Et on a l'impression qu'il ne s'est pas tourné vers Dieu, qu'il a fait son choix comme ça. Je ne pense pas que Dieu aurait pu lui donner l'accord pour aller à Sodome et Gomorre, en fait. Donc, probablement qu'il ne lui a pas demandé, sinon il aurait eu un désaccord assez ferme. Alors, Lot s'est retrouvé au milieu de ces deux villes, et en fait, c'est encore une fois, je pense, un avertissement pour nous à faire les choix en connaissant Dieu, comme Abraham juste avant, à le connaître et du coup à faire les bons choix. Parce qu'on peut, être juste, on peut finalement traduire dans nos termes à nous, être chrétien, mais faire un mauvais choix et se retrouver à un endroit où on va se compliquer méchamment la vie, on voit l'autre qui se tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait. Et quand les anges arrivent, Genèse 19, verset 2, il dit « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. » Et ils lui répondent « Non, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Et c'est pas du tout la même chose qu'avec Abraham juste avant. Vous voyez le lien entre les deux. Abraham, il dit « Venez manger, venez, vous allez vous reposer. » Ils acceptent, ils s'installent, ils discutent avec Abraham. Et là, Lot, il dit « Mais venez, venez manger, vous reposez. » « Non, on va rester sur la place et on va dormir ailleurs, mais non. » Imaginez un chrétien qui se retrouve avec Dieu qui dit « Je ne peux pas venir chez toi, là, c'est compliqué, c'est pas le bon endroit. Ma sainteté m'empêche de venir là. » Alors, heureusement, Dieu, il y va quand même. Mais il y a quelque chose qui le dérange là-dedans. Et c'est dommage d'en arriver, de faire un choix et après se retrouver en situation où Dieu dit « Mais non. » Non, parce que t'es dans le péché, t'es entouré, tu vois, il y a beau y avoir un mur, je peux pas. L'autre point qui est frappant aussi dans ce chapitre 19, c'est que donc les anges lui disent, écoute, on va détruire la ville maintenant. Et Lot veut bien le croire, et bon, il traîne un peu, mais finalement il dit à ses filles, à ses gendres, venez, venez, Dieu va tout détruire. Et les gendres pensent qu'il bluffe, je veux dire, qu'il blague. Ça nous dit au verset 14, « L'Éternel va détruire la ville, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. » C'est dommage, ça veut dire qu'en termes de témoignage qu'il avait dans la ville, ça passait pas. Et finalement, quand il parlait de jugement, les gens l'écoutaient pas. Alors, il y a plein de facteurs à ça, il y a probablement plein de raisons. Il y a probablement l'endurcissement des cœurs des gens de Sodome et Gomorre qui n'entendaient plus le jugement, qui fait qu'ils pouvaient plus se tourner vers Dieu et que c'était arrivé à ras-bord. Il y a un endroit où il dit le péché est arrivé à son comble dans Sodome et Gomorre. Il y a probablement aussi le fait qu'il avait tellement vécu longtemps avec eux, au milieu de ces choses-là, que leur dire « Non, il faut sortir d'ici, c'est pas bien. Bah, ça fait 20 ans que t'es avec nous. Enfin, tu nous as jamais dit ça. On n'a pas changé. Enfin, c'est pas pire qu'avant. Pourquoi tu, d'un seul coup, tu trouves qu'il faut partir ?» Et le fait de se mettre dans cette situation, au milieu du péché, quelque part, il a perdu son témoignage, il a perdu l'impact qu'il devait avoir Lot. Donc on va voir que Lot va être délivré de tout ça. Mais la femme de Lot, alors on peut épiloguer longtemps sur elle. Le truc, c'est qu'elle se retourne en arrière et que ça symbolise finalement son attachement aux choses du monde. Et elle, finalement, elle n'obtient pas le salut, elle. Alors la Bible nous dit qu'elle est changée en statue de sel. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, hein, mais s'il y a une pluie de cendres, de soufre et tout ça, elle a peut-être été, en s'arrêtant, elle a été complètement recouverte de cendres, de choses comme ça, et qu'en fait, elle est morte comme les gens de Pompéi, finalement. Hein. On retrouvait des gens à Pompéi qui étaient en train de faire leur pain, en train de sortir, enfin, dans des situations de la vie quotidienne, et ils ont été figés instantanément. Et c'est peut-être ce qui lui est arrivé. Et finalement, pour Lot, après, qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, bah, je vais m'installer là, dans le creux de la montagne, je vais aller à Tsoar, c'est tout petit, est-ce que tu peux encore faire une exception pour ça? Et Dieu dit, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, il va coucher avec ses filles et avoir deux enfants de ses propres filles. Ce sera Moab et Ammon. Et Moab et Ammon, ça a été deux peuples totalement ennemis d'Israël et qui ont posé que des problèmes à Israël après. Il a couché avec ses filles. Ses filles, elles ont dû être finalement mélangées avec les pensées de Sodome et Gomorre, se dire, oh bah, on va coucher avec notre père. Enfin, pour elles, finalement, c'était pas abominable. Et là aussi, on voit qu'elles ont été plus influencées par ce qu'elles ont vu à Sodome et Gomorre, probablement, que par la vie de Lot, qui était juste. Et elles auraient peut-être pu attendre quelques années, rencontrer quelqu'un d'autre et donner une postérité quand même. On n'en sait rien. Mais elles ont fait ce choix, finalement, voilà, complètement. Ouais, qui vient de Sodome et Gomorre, qui vient du péché, de coucher avec leur père, et ça a eu des conséquences qui étaient désastreuses. Et on voit du coup cette vie de Lot là qui était juste, mais qui fait un mauvais choix, qui se retrouve dans Sodome et Gomorre, qui se retrouve avec sa femme qui meurt, avec ses gendres qui l'écoutent pas, la ville qui est détruite, lui il couche avec ses filles, on voit qu'il est ivre, il plante des vignes, il est ivre, et il finit pas très bien en fait. Alors on a beau l'appeler juste, il y a tout un ensemble qui fait que ça finit pas bien. Et c'est ça l'idée, je pense, de ces chapitres-là, c'est que on doit absolument connaître le Seigneur, le connaître tel qu'Abraham, il le connaissait, il était appelé l'ami de Dieu. Il parlait face à face. Ils sont pas nombreux comme ça, hein. Mais si on se dit que quelqu'un de l'Ancien Testament, il pouvait lui parler face à face avec Dieu, mais nous, avec tout ce qu'on a là, il n'y a rien qui nous en empêche, en fait, hein. Je dis pas qu'on doit tous s'attendre ici à voir Dieu physiquement et à parler physiquement avec lui. Ça peut arriver. Mais on peut connaître Dieu à l'intérieur de nous, et quand il nous remplit, on a l'impression qu'il est là physiquement, en fait, c'est tout comme. Et il nous parle, et on a sa présence juste avec nous, et c'est ça qu'il faut qu'on recherche, en fait. Et je pense, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les messages qu'on a depuis plusieurs semaines, quelque chose que le Seigneur, il nous met dans les cœurs, de juste nous approcher de lui. Pas chercher des nouveaux moyens d'évangéliser, des nouvelles choses à faire, juste s'approcher de lui. Et il nous fera part de ses plans, comme il a fait avec Abraham. Et on bénéficiera de la bonne promesse. Parce que l'autre promesse s'est accomplie. Les deux villes, elles ont été détruites. Et c'est vraiment le choix, il dépend de nous. Il dépend de nous, est-ce qu'on fait le choix à la va-vite de dire, oh non, ou alors, ouais, Dieu, ça m'intéresse, mais bon, voilà, quoi, juste comme ça. Lot, il était juste. Donc il connaissait une certaine forme de Dieu. Mais il a mal fini. Et je vous encourage à, juste, m'encourage aussi, hein, personnellement, à nous rapprocher de Dieu. À juste le connaître, se mettre devant lui comme il y avait avec Abraham, et alors on va bénéficier d'un tas de choses qu'on n'imagine même pas. On aurait pu discuter très longtemps aussi, mais c'est plus l'heure, de Dieu qui dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? On pourrait aussi le traduire, est-ce qu'il y a quelque chose de trop dur pour Dieu? Et voilà, si on croit aux promesses de Dieu, il n'y a rien d'impossible pour lui. Si on le connaît vraiment, alors il peut faire des choses terribles dans nos vies, terribles dans le bon sens. Et c'est ça qu'il faut qu'on recherche, juste sa présence. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour les exemples qu'on a dans la Bible. Seigneur, d'un côté Abraham qui te choisit, qui choisit d'être près de toi, de te parler, et à qui tu révèles des choses merveilleuses, Seigneur. Merci parce que tu n'avais pas besoin de lui et pourtant tu le fais participer à ton plan de salut pour Lot. Et Seigneur, cet exemple de Lot qui te connaissait d'une certaine. Certaines formes, Seigneur, d'une certaine façon, et qui finissent si tristement. Et on te prie de mettre dans nos cœurs cette soif de toi, Seigneur, cette faim de toi pour te connaître. Et on veut rien d'autre, en fait, Seigneur. On pourrait, Seigneur, te prier pour la guérison, pour l'évangélisation, pour un tas de choses, mais on veut juste bénéficier de ta présence et on sait que tout ça, ça sera donné avec. Seigneur, transforme nos cœurs et attire-nous toujours plus à toi. Amen.